C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on va commencer ce matin avec le congrès du Parti québécois en fin de semaine. Est-ce que les troupes seront mobilisées? Est-ce que les électeurs vont revenir vers le PQ? Nathalie.
Non, malheureusement pour Paul Saint-Pierre Plamondon. La réponse est non. Je dirais même que le Congrès national qui s'est tenu en fin de semaine s'est tenu dans l'indifférence de la population. On est loin des grandes mobilisations des années 70, 80, 90. Je dis 60, il faut juste se rappeler que le Parti québécois a été créé en 1968. Mais rappelez-vous l'élection de René Lévesque en 76 et référendum de 80-95. En fin de semaine, même pas une petite houle, là, tu sais, là, juste une petite ondulation à peine. C'est triste parce que il y a quand même, je voyais en fin de semaine Paul Saint-Pierre Plamondon, là, écoute, c'est poumonné, puis il fait ce qu'il faut comme chef, là, il est jeune, je trouve à la limite, il est pas assez convaincant, mais il est convaincu. Il est pas convaincant, mais il est convaincu. Et malgré le changement de logo, malgré les discours, l'appel au renouveau, oubliez ça, là, ça ne passe pas. En fait, ça ne passe plus. Le Parti québécois ne fait plus rêver les Québécois. Le rêve de pays, le rêve de faire du Québec un pays indépendant ne fait plus partie des rêves des Québécois. Et je dirais même, pour résumer, là, c'est un ami qui me disait ça en fin de semaine, là, pour résumer la situation dans laquelle se trouve le Parti québécois sur le plan politique. C'est qu'à une certaine époque, avec le Parti québécois, on nous proposait un nouvel horizon. Mais depuis plusieurs années maintenant, ça tourne en rond. Alors, pas très optimiste pour la suite des choses.
Luc?
Tant qu'à moi.
Un peu d'accord, sauf que j'y rajouterais quand même que c'est un parti qui fait bien les choses. Là. C'est un parti professionnel, c'est du solide. Les propositions étaient solides en environnement. Tu sais, Dominique Anglade qui a parlé de 100 milliards pour faire une batterie verte à l'hydrogène, ben c'est-à-dire pas juste ça, mais en particulier, c'était pas réaliste. La CAQ qui change d'idée comme elle change de chemise, on va être un parti de la rationalité, puis on va couper dans les postes, puis finalement, il augmente à mort. Le PQ a une cohérence, puis il y a il y a des gens qui travaillent au PQ. Là. J'ai regardé les propositions, là, tu vois que c'est fouillé.
Un parti studieux.
C'est un parti studieux. C'est un studieux cohérent. Il y a beaucoup de monde, membres entre 30 et 40 000. Ils ont un excellent financement. Ils ont des bons candidats. Moi, j'arrive donc à la conclusion que le parti ne va pas disparaître. Tu sais, il y a des fois, tu regardes le Québec 125 ou d'autres sondages, là, puis ils promettent seulement un poste au Parti québécois. J'ai des doutes. Moi, je les vois plus haut que ça. Je vois qu'ils ne vont pas disparaître. Tu regardes aussi les députés en place. Véronique Yvon, Arsenault,
Bérubé,
le gars du Saguenay, comment il s'appelle?
Gaudreau.
Oui, Sylvain
Gaudreau, c'est mon meilleur. Puis,
ben oui, c'est sûr que c'est ton meilleur.
Ah ouais, il est bon. Puis,
discours environnemental est très, très radical.
Non, il est cohérent. C'est un gars qui est cohérent. Il fait ses devoirs. Pas, on va sauver l'environnement, on va planter deux plants de tomates. Non, c'est pas ça, ça marche pas de même. Fait que là, il y a tout ça là, au PQ.
Mais t'as vu sa proposition sur d'augmenter la taxe sur les véhicules?
Voilà.
Des gros cylindrés.
Oui, à l'exception des travailleurs de la construction, je pense, puis des travailleurs forestiers.
C'est cohérent.
Tu vas avoir un F-150 en ville, paye.
Ben voilà.
Non, mais ils sont peut-être cohérents, Luc, sauf que leur discours ne colle pas. Bon, c'est vrai que le Parti québécois est un parti studieux, mais lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon nous décrit le Québec sous la CAQ comme un gouvernement qui s'en va, comme une société qui s'en va, le Québec s'en va dans un gouffre, et c'est comme s'il nous annonçait la fin du monde en fin de semaine. Excusez-moi, là, mais François Legault, c'est devenu le nouveau héros des Québécois, là, le souverainiste qui a embrassé le nationalisme identitaire. Lui, il est pragmatique, puis il se tient debout devant le fédéral. C'est comme ça que les Québécois le perçoivent. L'autre chose, lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon...
Et devant le Canadien de Montréal.
Et lorsque Paul Saint-Pierre Plamondon parle du gouvernement fédéral comme un gouvernement lointain... excusez, il y a 2 millions de Québécois qui ont reçu la PCU là, durant la pandémie. Là. Pour eux, le gouvernement fédéral n'était pas lointain. Et là, il ose même nous dire que il veut opposer... En fait, il a même parlé de communautarisme en fin de semaine dans son discours, en parlant du gouvernement de Justin Trudeau qui prône le communautarisme. Moi, je me suis dit, attends une minute, là. Le communautarisme, là, si on parle de ça en France, là, on oppose le communautarisme à l'intégration souvent. Lui, il veut opposer l'idée d'indépendance au communautarisme. Là-dessus, j'ai décroché.
D'accord.
Parce que je me suis dit, là, c'est comme trop fort, casse pas, là, c'est non.
J'ai une petite question pour toi. Tu sais, des fois, comment tu te fâches sur
morceaux de robot?
Le nationalisme identitaire de M. Legault.
Oui.
Tu sais, cette espèce de discours-là, on est fiers parce qu'on est fiers. Puis, tu te fâches souvent là-dessus. Là. Le PQ propose un nationalisme basé sur des faits, c'est-à-dire il y a des chevauchements du fédéral dans le provincial, il y a des lois qu'on ne peut pas adopter, etc. Entre les deux, tu choisis quoi?
Ben, c'est une question. Pourquoi tu me fais choisir entre les deux, là? Moi, c'est...
Mais mettons que tu auras à choisir entre les deux, là. Parce que, il y en a un national. Toi, tu dis, Legault, ça fait la job en ce moment.
Lequel nationalisme est moins...
Moi, le nationalisme identitaire, Luc, ça me fait peur. Parce que c'est un nationalisme qui divise. Moi, je continue d'affirmer qu'on n'avait pas besoin de la loi sur la laïcité au Québec. On a voulu régler un problème qui n'existe pas. Ça, c'est mon point de vue. Le Parti québécois a toujours hésité à aller sur ce terrain-là. Rappelez-vous la déclaration malheureuse de Jacques Parizeau en 95, hein? Mm-hmm. Pourquoi on a perdu le référendum? Alors, chaque fois qu'ils sont allés sur le terrain du nationalisme identitaire, ils sont allés sur le bout des pieds. Rappelez-vous la Charte des valeurs. Ça a créé, en fait, ça a provoqué la défaite du Parti québécois, la Charte des valeurs. Alors, le Parti québécois a toujours, a fait de son ADN la question liée à l'identité nationale, au pays, mais c'était quelque chose, comment dire,
moi, je pense
plus
pas que c'est la Charte
positif
qui a fait perdre le PQ la dernière fois. Je pense que c'est Pierre-Carl Pelado qui est arrivé avec le poing en l'air, qui s'est mis à parler de souveraineté, puis là, les libéraux ont dit parfait, on attendait juste ça.
Un mélange des deux, mettons. Okay. Un mélange des deux, OK? Non, mais moi, je trouve que là-dessus, le Parti québécois est toujours très prudent. Qu'est-ce qui unit actuellement le Parti québécois au Parti libéral du Québec? Regardez le portrait politique à l'Assemblée nationale. Le PQ et le PLQ sont les deux plus vieux partis à l'Assemblée nationale. C'est eux qui ont le plus de difficultés à se démarquer actuellement par rapport à leur projet de société. Ils ont de la difficulté à trouver leur place sur l'échiquier politique du Québec. La CAQ a 10 ans d'existence. Québec solidaire, à peu près, j'imagine, c'est ça, autour de 10 ans. Alors, eux, ils sont perçus encore comme des partis nouveaux, des partis qui peuvent faire rêver, évidemment, aux extrémités presque du spectre. Remarquez que dans le cas de la CAQ, ils ont opéré un virage vers le centre parce qu'ils étaient perçus davantage comme un parti de droite. Rappelez-vous le discours de François Legault, moins d'État dans vos vies, plus de richesses, plus d'emplois. Là, ils sont au gouvernement. À chaque fois que tu es au gouvernement, un parti politique opère toujours un virage vers le centre. Et moi, Luc, je salue je salue ton, comment dire, ton jovialisme face au Parti québécois, mon cher Luc, là. Mais il n'y a pas personne, il y a beaucoup moins de monde au Québec aujourd'hui qui rêve à l'idée du Québec puis d'en faire un pays. Puis,
oui, non. Comprends-tu? C'est clair. Mais ils tiennent le fort.
Ah, ça fait, on a prédit combien de fois la mort du Parti québécois?
Ouais, c'est ça.
Combien?
C'est ça.
Combien?
Puis moi, j'aime mieux le nationaliste de Paul Saint-Pierre Plamondon et du Parti québécois que celui de M. Legault. C'est moins verbeux, c'est moins clivant. C'est plus il y a des propositions plus riches, plus approfondies. On n'est pas obligé d'être pour, mais au moins c'est du solide. C'est quelque chose sur lequel on peut dire je suis pour ou je suis contre, mais c'est pas un discours vaseux sur on est fier, là.
On est d'accord, Paul, presque, là, ce matin, Luc et moi, là-dessus.
C'était pas
là,
parti yes, comme ça, là. Il y avait des voix parallèles, mais...
On demande au Parti québécois de nous envoyer deux cartes, une pour Nathalie puis une pour moi.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, c'est vrai. Quand tu regardes les statistiques, c'est pas si pire. Par exemple, dans les 10 dernières années, ça a varié 23 à 35. Là, on est à 32, on va s'en à 35. Cette année, à peu près, j'imagine, ça continue comme
35
ça.
35 homicides, là.
Ouais, homicides.
Meurtre.
Meurtre avec une arme. Puis là, tu dis, OK, c'est vrai, c'est pas si pire. Et quand tu compares aux années 70, on était à 100. Puis il y a eu une diminution à Montréal, comme dans le reste de l'Amérique du Nord, d'ailleurs, une diminution progressive qui s'est jamais vraiment démentie. Il y a eu des petits pics, là, mais ça a presque toujours diminué. On était à 23 ces dernières années, 25, puis on a déjà été à 70, 80, puis même 100 dans le temps de la guerre des motards. Là, statistiquement, tu dis, bon, c'est pas si pire. Mais un instant, là. Comparons des pommes avec des pommes. Dans les années 70, quand il y avait pas de ceinture de sécurité sur les véhicules, ou très peu qui la portaient, où les gens fumaient la cigarette, mouraient du cancer du poumon, il y avait aussi beaucoup plus de morts de la route, beaucoup plus de morts de toutes sortes de formes d'accidents. C'était pas le même univers. Là, on est quand même une des plus mauvaises années dans les 10 dernières années. Si tu compares, par exemple, à 2018, l'augmentation du nombre de tentatives de meurtre est à peu près de 50 %. Hey, on était à 122 tentatives de meurtre, là. Non, c'est pas 50 %, à peu près 35 %. 122 tentatives de meurtre, plus 32 meurtres. Et dans ces meurtres-là, avec une arme de poing, il y a deux ans, on était à 10, là, mais on est à 32. Donc, c'est pas des petites augmentations, là. Tu regardes une année sur l'autre, c'est des augmentations de 30-40 %. cette année par rapport aux autres. Alors, moi, ça m'inquiète. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est le type de meurtre. Donc, que les Hells puis les Rock Machines se tapent dessus, ne dérange pas grand-chose dans les familles, ça. Que la mafia, il y a une guerre de territoire pour la mafia, ne dérange pas grand-chose dans les familles, ça. Mais quatre ados tués dans la rue, ça dérange pas les familles.
Nathalie.
C'est vrai que c'est préoccupant, mais à la question, Paul, est-ce que Montréal est encore une ville sécuritaire? Moi, je réponds oui. En fait, il y a les faits et il y a la perception qu'ont les citoyens de leur ville, ce qu'on appelle le sentiment de sécurité. Les faits, Luc, t'as évidemment fait part de plusieurs statistiques, là. Le journal Le Devoir a publié un article fort intéressant le 5 novembre dernier qui réfère à un indice développé par Statistique Canada sur les crimes avec violence commis dans les grandes villes au pays. Et depuis 1999, on se rend compte effectivement que l'indice des crimes crimes avec violence à Montréal est en constante diminution. Alors, les faits semblent confirmer effectivement qu'il y a moins de criminalité à Montréal. Par contre, dans la perception, pour plusieurs Montréalais, il y a une toute autre réalité qui existe. Pour les gens de Montréal-Nord, en particulier ce qu'on appelle les quartiers chauds. En fait, si les gangs de rue ne se tiraient pas dessus comme ils se tirent actuellement, probablement qu'on ne serait pas en train de discuter du sentiment de sécurité ou de est-ce que Montréal est une ville dangereuse ou est une ville sécuritaire. Et c'est pour ça que les services, le SPVM, différents corps de police doivent s'attaquer prioritairement à l'enjeu des gangs de rue. Je disais en fin de semaine là, que pendant ce temps-là, la mafia, entre autres, et puis le crime organisé, là, tout le monde se tient, les Hells en particulier, tout le monde se tient bien tranquille. Là. Ils regardent les gangs de rue se tirer dessus, puis effectivement, on est tranquillos, comme on dit. On commence à avoir un problème lorsque les gens ne se sentent pas en sécurité. Et c'est pas juste pour les gens qui vivent à Montréal-Nord, à La Salle ou à la Chine. C'est des gens qui travaillent à Montréal. C'est des gens qui vont visiter Montréal, qui se disent, écoute, là, moi, je ne vais plus marcher dans le vieux Montréal parce que j'ai peur. Alors, la ville doit continuer avec les autorités de marteler ce message que oui, effectivement, la ville est sécuritaire et voilà les moyens qu'on prend pour s'assurer qu'elle continue d'être sécuritaire. Parce que moi, Luc, le danger que j'y vois en supportant le fait que la ville est dangereuse, c'est que c'est comme si tout Montréal, toute l'île de Montréal et tout le territoire de l'île de Montréal était dangereux. Ce qui n'est pas le cas.
Non, bien sûr que c'est pas le cas. C'est effectivement quelqu'un qui décide de pas aller marcher dans le vieux Montréal connaît nettement pas Montréal. Là. C'est ciblé, mais ce groupe ciblé qui a des comportements erratiques, sauvages. Je pense que ça, c'est nouveau. En tout cas, c'est à ce niveau-là, c'est nouveau. Qu'on tire sur un jeune homme qui plusieurs balles, il paraît, entre autres, c'est ce que j'ai compris d'entre les rumeurs, là, pas juste un petit coup comme ça qui a mal parti. Là. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Qu'on tire sur un jeune rappeur dans une voiture qui a absolument aucune histoire criminelle. Puis qui est très, très apprécié par sa communauté. Une balle perdue qui tue une jeune fille, etc. Ces faits-là, là, regarde, c'est que... Moi, on va prendre l'analogie avec la sécurité. Faire du vélo sur n'importe où à Montréal, j'ai pas peur. Mais si tu me dis, ces trois pistes cyclables-là, il y a eu quatre morts dans les derniers mois, j'irai pas sur ces pistes cyclables-là. Voilà. Les parents qui habitent dans Ville-Saint-Michel, dans Montréal-Nord, dans Anjou... est-ce qu'ils ont envie que leur enfant marche dans la rue au retour de l'école ou au retour du hockey? Est-ce que il va revenir trois chums tout seul au retour du hockey? Mais moi, je dirais non. Fais-le pas.
Non, et
quand tu réponds non à cette question-là, t'es pas dans une ville sécuritaire.
Effectivement, c'est pour ça. Là, il y a le sentiment de sécurité et les faits, tu comprends. Mais as-tu vu l'article ce matin dans la presse? Là, il y a des mamans, des parents qui commencent à se doter, ils font des démarches pour obtenir un port d'armes. Alors, évidemment, dans ces quartiers-là, c'est préoccupant. Toi qui as siégé au conseil de ville de Montréal, qui était maire du plateau, les gangs de rue, là, ils se tapent sur la tête depuis déjà plusieurs années, au début, début 2010.
Écoute, les premières fois, même avant ça, quand il y avait eu les beaux gars, la première fois. Les Master B, ouais, qui sont, ouais. Puis après ça, les bleus puis les reds.
Ouais.
T'avais ça, ça fait 30 ans, là. Mais à ce niveau-là, non.
Mais c'est parce que ce qui est différent des, appelons ça des confrontations qu'on a vues, là, du crime organisé, même la guerre des motards. Il y a eu des victimes innocentes dans la guerre des motards, là. Puis pas juste l'enfant sur Pinneuf, là. Il y en a eu quelques-uns. Je me souviens d'un gars qui avait été abattu une station-service. Mais c'était ciblé. Puis ça se passait, disons, contrairement. Ouais, mais actuellement, là, c'est n'importe qui, n'importe où, n'importe comment.
Mais Paul, la mission des ailes, c'est pas de tirer sur tout, sur peu importe sur qui dans la rue. C'est pas ça leur mission. Le modus operandi, par contre, des gangs de rue,
ouais,
il est très différent. Parce que tu vois, je voyais encore d'autres statistiques. En 2017 et 2018, zéro meurtre lié aux gangs de rue. Depuis l'automne 2019, 5 meurtres liés aux gangs de rue. C'est là où ça a changé. Parce que eux, là, dans le fond, c'est très violent et leur façon d'opérer, de fonctionner, fait en sorte qu'eux, tirer sur un jeune gratuitement dans la rue, ça fait partie de leur façon de fonctionner. Et c'est à ça qu'il faut urgemment s'attaquer parce que là, c'est Montréal ne peut pas devenir le Far West. Là. C'est impossible.
Mais tu sais, Nathalie, moi, ça me procure une sensation de dégoût. Parce que les crimes que je vois, dont on est témoin dans les journaux, là, bon, il y a eu les meurtres, mais il y a aussi toute cette vague d'exploitation sexuelle de mineurs des gangs de rue. Ça, c'est quelque chose qui est au-delà de ma capacité à me contrôler. C'est que je me dis tout le temps, d'abord, regardons la victime. C'est quoi l'histoire de la victime? Mais l'histoire de la personne... Il y a deux victimes. La personne qui est la victime... qui a été offensé, humilié, agressé, tué, puis il y a celui qui l'a agressé, etc. Souvent, l'agresseur est aussi une victime. Puis j'arrive à comprendre, puis je me dis, ça prend de la réhabilitation, ça prend de la compréhension, il faut aller en profondeur. Quand une personne fait de l'exploitation d'une mineure de 15 ans, puis qui s'en vante, je ressens de la haine.
Ben ouais,
de la haine. Ouais,
on a un méchant problème comme société, là.
Et puis ça, tu vois, j'arrive pas à parler clairement. Par exemple, oui, je veux bien le programme de 52 millions pour limiter la criminalité des jeunes. Parfait. D'ailleurs, ce programme de 52 millions, parlons-en deux minutes. Ouvrons une parenthèse. Comment ça se fait que c'est 23 millions pour Montréal sur un programme de 52 millions? C'est quoi cette affaire-là? C'est ici que sont les meurtres. Pourquoi c'est pas 80% à Montréal? C'est cette espèce de répartition à la mort moelle-neuve de Québec, là, de dire faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ben oui, il y en a pour tout le monde, c'est ici que sont les crimes. Première chose.
C'est un bon début, là. C'est un bon début quand même.
Oui, mais attends, on va regarder, parce que c'est sur 5 ans. Puis là-dedans, il y a deux programmes qui donnent chacun 10 millions pour le renforcement des groupes communautaires puis la lutte à la criminalité. Mais il y avait déjà un 5 millions par année qui était par Montréal. Et ma question, c'est est-ce que Québec vient juste renflouer le 5 millions de Montréal ou est-ce que c'est un nouveau 5 millions? Ils n'ont pas répondu à cette question-là en fin de semaine. Toujours est-il que s'ils le font, on aurait un 5 millions par année de Montréal, puis tu ajoutes à peut-être un 5 millions par année de Québec, ça fait 10 millions. 10 millions, c'est bon pour les groupes communautaires. C'est rien pour l'éducation. Là, là tu aurais besoin de centaines de millions.
Mais moi, je dis que c'est un début, mais le talon d'Achille, la stratégie actuellement, c'est l'absence du fédéral sur la sévérité des peines, entre autres, liées à ce type de crime. C'est largement documenté que plus les peines sont sévères, ça peut avoir un effet dissuasif. Mais il faut que le gouvernement fédéral envoie un message clair, net et précis que c'est ce genre de violence dans les rues de Montréal. Là, ça sera tolérance zéro, puis ça va se traduire dans les peines, les sentences qui vont être prononcées pour ce type de crime.
Merci à tous les deux. Passez une excellente journée. 9h09. Et un survol de l'autoroute métropolitaine.
Merci.
C'est 23.